J'avais Taglit et autres plus si affinités. J'étais avec des groupes tout l'été, donc je n'ai pas vu ce que c'était les vacances. La vérité, je suis parti avant. Je suis parti 5 jours avant que tous les groupes n'arrivent. La première semaine de juillet, deuxième semaine de juillet. Voilà. Mais sinon voilà. Puis c'est pas grave, on revient, on continue. On aura le temps d'être en vacances après.
Juste une seconde, moi j'ai découvert à la montagne aux Alpes de Mille un hôtel cachère, un hôtel de montagne qui mange pas de pain, très propre, 4 repas avec l'avion, tout compris, avec les transferts, avec les forfaits remontés
Non,
mécaniques
c'était
et
pas
tout.
le fils
Mais bon, c'est Ariédaran.
Ariédan? Parce
Ariédaran
que
qui le fait, il n'y avait que des Israéliens, pratiquement,
c'était pas
sauf Gila et Lévi.
parce qu'il y a le fils Cherchevski qui a fait ça aussi.
Oui,
C'est
exactement,
lui?
au même endroit.
C'est lui là? C'est le
Au
même
même
truc?
endroit.
C'est très joli.
Alors lui, il
Il y en
fait
a
un
deux
peu
vieux,
vieux
il y en a deux.
maintenant, il l'a fait. Il a
Ariédaran,
donné
il était dans le chemin de
Il y avait deux
Oui,
ouvriers cachés, mais après
oui.
nous, on est partis en août, et en septembre, il y avait un groupe de personnes âgées avec Claire et tout ce groupe. Non, mais je voulais vous dire, c'était très bien, une très bonne ambiance, que des Israéliens.
T'as été combien de temps, toi?
Moi, j'étais une semaine.
Une semaine?
Ouais.
Avec moi.
Ah,
La seule,
super.
c'était Gila Lévi. Gila et Hervé Lévi, c'était les seuls Français avec nous. Et il y avait environ 150 personnes à peu près dans l'hôtel.
Je connais bien.
Très
Et
bien.
alors, le pâtissier, c'était Daniel Benichou.
Tu le connais.
Malheur pour les fesses.
Eh ben,
Malheur.
C'est cela. Tiens, eh bien, après ces informations très importantes, eh bien, nous revenons dans notre étude du livre de Bereshit, après cette pause insoutenable de l'été. Et en fait, nous étions arrivés à la fin de la paracha de Toldot, ce qui nous permet de commencer la paracha de Vayetse. Comme on a dû attendre tout l'été, alors je vous fais un petit previously. Voilà. Hein? Previously in Sefer Bereshit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, vous vous rappelez qu'il y a un monsieur, il s'appelle Yaakov, et il y a un monsieur, il s'appelle Esav. Ils ont eu un petit différend quant à la bénédiction du papa qui devait succéder à Yitzhak. Et finalement, on connaît l'histoire, on a bien étudié. Yaakov, avec un petit stratagème intéressant, va prendre la Beracha. Suite à quoi, Esav est pas très content et décide de mettre fin à la marloquette entre lui et son frère de manière drastique. Ce faisant, papa Yitzhak et maman Rivka disent à Yaakov, chacun pour ses raisons, part. Maman Rivka, elle dit part parce que j'ai pas envie que tu meures et qu'après il tue Esav aussi. Donc j'ai pas envie, donc tu pars et tu reviendras quand il sera calmé. Et Yitzhak dit, il est temps que tu te maries, et il est hors de question que tu prennes une femme ici en Eretz Canaan. Va dans la famille, va chez le frère de ta mère. Ok? Donc voilà la situation, et c'est sur cette ambiance-là que Yaakov s'en va. Nous ouvrons donc la paracha de Vayetse, et le problème, c'est que c'est une paracha qui est, alors, fondamentale évidemment, parce qu'on est dans le livre de Bereshit, et que le livre de Bereshit, c'est mamash, le prototype de tout ce qui va arriver dans l'histoire d'Israël, c'est le livre de notre identité. Mais c'est une paracha terrible parce que justement, comme il s'agit des balbutiements de notre identité, Maaseh Avot, Siman Habanim, les actions des pères sont pour nous des repères, et donc ça veut dire que bah, l'archétype de ce qui se passe ici, on doit en prendre bonne étude. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bah, c'est le départ en exil. Yaakov étant potentiel tout le peuple juif, il va donner naissance au peuple juif. Et donc Yaakov part d'Israël. Ce verset qui nous dit Vayetse Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Charana, il est terrible. Il a l'air anodin, mais il est terrible. C'est le verset qui nous dit que le peuple d'Israël part en exil. Premier verset, chapitre 28, verset 10. Ok? Donc Vayetse Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Charana. Donc Yaakov doit partir, doit quitter la terre d'Israël. Top? Ce qui veut dire que toute la paracha va être le départ en exil et quel est le rôle du peuple juif en exil. D'accord? Parce qu'évidemment qu'il y a un rôle. Il y a un rôle au peuple juif en exil. L'exil, c'est mal. L'exil, c'est une malédiction. L'exil, c'est une punition. Tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'on y est, on a un rôle à jouer. D'accord? Alors, bon, au prochain, on a terminé l'exil. On est rentré en Israël. Mais effectivement, on a dû l'exercer pendant pas mal d'années. Et pendant près de 2000 ans, on a exercé ce rôle-là dans le dernier exil. Avant ça, il y a eu 70 ans à Babylone, il y a eu 210 ans en Égypte. Il y a du boulot. Donc, Vayetse Yaakov Bershava Vayelacharana. Une fois que Yaakov doit partir, eh bien, il doit s'armer pour quitter l'exil. Enfin, pour quitter la terre d'Israël, pour partir en exil. Il doit s'armer. De quoi ? Eh bien, hein, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des fois des gens qui viennent faire un petit voyage en Israël et qui ont à cœur d'acheter de la terre d'Eretz Israël. Et dans les magasins spécialisés, ils savent très bien comment attraper les touristes et ils te vendent de la terre dans un bocal. Alors que tu pourrais, toi, faire comme ça. Mais je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé quand vous étiez plus jeune et vous n'étiez pas encore en Israël, de vouloir un sac de terre de la terre d'Israël.
On,
de... on nous emmenait, voilà, des couleurs. Je... Ouais, toi, tu vois ?
Moi, j'ai, sous une forme très précise, vous savez, quand mon mari faisait des boîtes de montres,
okay.
Et nous avons créé un modèle qui a marché très bien aux États-Unis sur la demande d'un client. C'était une montre avec à l'intérieur du sable d'Israël.
Ben oui, c'est intelligent. Mais tu rigoles, business is business. Mais les amis, il y a un magasin. Alors moi, je ne sais pas si déjà s'il y a des gens qui achètent ça, mais j'imagine, parce que ça fait 50 ans que ce magasin, enfin j'exagère 50 ans, mais ça fait des dizaines d'années qu'il existe et il n'a pas l'air de ne pas marcher. Et pourtant, les produits vendus là-bas sont avec beaucoup de zéros derrière. Mais il y a dans la vieille ville le magasin Moria. Maintenant, c'est quoi leur concept ? Concept extraordinaire maintenant. Toi, tu ne vas pas acheter. Moi, je ne vais pas acheter. Mais l'Américain, voilà, il va acheter. C'est quoi le concept ? Ils font des bijoux. Mais attention, uniquement trois matériaux dans les bijoux. La pierre la plus puissante du monde, le diamant. Le matériau le plus... le plus classe du monde, l'or. Et... Non. Et la pierre de Jérusalem. Et donc, ils font des bijoux avec la pierre de Jérusalem.
Verte, la pierre
vanille. Non, beige comme ça.
Non, c'est lilas. C'est lilas.
La verte, c'est la
tradition
de mettre aussi un petit peu de terre d'Israël.
Vadaï, sur la tombe, on mettait un peu de terre d'Israël.
J'ai ramené.
Bah oui, t'as ramené, t'es pas une pigeonne. Pas de raison d'acheter. Elle est là, il n'y a pas de raison d'acheter, on peut la prendre.
Bien sûr.
C'était un minhag très, très, très répandu. Ouais. Mais d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Eh bien, quand on part en exil, le plus important est d'avoir quelque chose qui nous rattache à pas l'exil. Et donc, ce lopin de terre, ce petit sac de terre, ce caillou, ce quelque chose qui nous rattache à la terre d'Israël, eh bien, quelque part, ça nous a autant gardé que quand on disait l'an prochain à Jérusalem. C'est la même chose de dire l'an prochain à Jérusalem. Et donc, en fait, lorsque Yaakov s'en va en exil, eh bien, il s'occupe de faire la même chose. Puisque juste avant de partir, Vaivga Bamakom, il a touché l'endroit. Eh oui. Et là, il faut bien comprendre. Lorsqu'on part d'Israël, Dieu ne se trouve, entre guillemets, plus dans l'endroit. Il se trouve dans le temps, il se trouve dans le cœur du juif, mais il ne se trouve pas dans l'espace. Alors évidemment, vous allez me dire, Dieu il est partout. Bien sûr, Dieu il est partout. Mais en exil, on a réussi à le dévoiler que dans des temps particuliers, Shabbat, les fêtes, et dans des mitzvot particulières du peuple juif. Mais est-ce qu'on avait des mitzvot liés à l'espace, à l'endroit où on est ? Bien sûr que non. Il n'y a pas de mitzvot atriot baharet, il n'y a pas de kedusha de la terre de France. C'est ce qui a amené un homme aux États-Unis, on n'arrête pas d'en parler, hein, qui s'appelait Avraham Yehoshua Heschel, au XXe siècle. Philosophe, grand penseur juif. Et il a beaucoup réfléchi à plein de choses. Il était un petit peu conservatif sur les bords. Il a réfléchi à plein de choses, mais il en est arrivé à une conclusion qui est malheureusement pas celle du judaïsme. Lorsqu'il écrit son livre « Les bâtisseurs du temps », eh bien, il nous dit qu'à la différence des nations qui ont fait des palais dans l'espace, des temples un peu partout, tiens, nous, nous avons fait des palais dans le temps. Shabbat, les fêtes. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le Beth Amikdash, monsieur Heschel ? Il a bien lu la Torah, Abraham Michel, il connaît très bien le Beth Amikdash. Ah oui, effectivement, le Beth Amikdash ou le Mishkan avant lui, nous dira Abraham Michel, c'est un compromis avec l'idolâtrie. Il suivra l'avis qui dit que le Mishkan a été demandé à être fait après la faute du veau d'or. Il te dit, bon, tu vois bien qu'on a fauté, et donc ça montre qu'on n'est pas capable de servir un dieu de manière complètement abstraite. Donc, on nous a dit, bah, alors fais un Mishkan, ça va t'aider. Mais c'est juste parce qu'on n'était pas prêt. L'idéal du judaïsme, c'est sans rien.
Ça veut dire que les korbanot, ça va avec.
Donc il va te dire, bah, les korbanot, c'est comme a dit le Rambam. C'est juste parce que c'est ce qu'on a copié des Égyptiens. Mais dans l'idéal, pas du tout. Ok ? Alors pourquoi je dis que ce n'est pas la vie du judaïsme ? Ça s'entend. C'est la vie de Rashi, de nous dire que le Mishkan a été demandé après la faute du veau d'or. Alors que l'ouverture de la mer Rouge, ça se passe par les mots. Fais-nous venir et plante-nous. Behar nachalatecha. Hashem, mikdash, Hashem konenu yadecha. Donc on a déjà l'idéal du mikdash à un endroit bien donné, au Har Moria, avant la faute du veau d'or. Donc non, ce n'est pas un compromis de la faute. Abraham Michel vit en exil et voit dans l'exil ben, seulement deux dimensions de relation au divin, les mitzvot du juif et le temps. Il y a pourtant une troisième dimension qui est celle de l'espace. Eh oui, Ed Malassot, on ne peut pas faire sans l'un des trois. On va faire très simple. Demain, je suis censé sortir dîner avec ma femme. J'ai donc la personne avec qui je vais dîner. C'est ma femme. J'ai le moment, le temps. C'est demain soir. Mais si je ne lui dis pas où on va et que je lui dis on se donne rendez-vous demain soir à 8h, sans autres informations, est-ce qu'il y aura rencontre ou il n'y aura pas rencontre ?
Surprise.
Ben, non, où elle va aller ?
Elle va attendre la maison.
Elle ne peut pas savoir.
Non, je lui dis on se retrouve demain à 20h. Où est-ce qu'on se retrouve ?
Devinez peut-être un beau restaurant, mais à part ça, c'est tout.
Où est-ce qu'on se retrouve ? Si je ne donne pas l'info. Moi, j'ai peut-être une idée, elle a peut-être une autre idée, on va se croiser. Non, ça, je dis quelque chose de logique. De la même façon, si je lui dis, on se retrouve, je sais pas moi, au café Rimon, mais je ne dis pas quand, on ne va pas se retrouver non plus. Donc, les trois. Et si j'ai prévu qu'on aille au café Rimon à 20h demain soir, mais que je ne le dis pas à ma femme ?
Ben, elle va pas venir.
Ben, donc on ne va pas se retrouver non plus. Donc, les trois dimensions sont fondamentales pour qu'il y ait une rencontre. On a besoin de l'identité avec qui j'ai envie de rencontrer, l'endroit et le moment. Comment est-ce qu'on dit une rencontre en hébreu ? Bgisha, ça c'est en hébreu moderne. Mifgash, ça vient du mot Bgisha. Idva Adut. Moed. Ah. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive d'avoir des réunions avec tous les gens qui habitent dans cet immeuble pour discuter de est-ce qu'on met bien les poubelles quelque part ou... ouais. Comment ça s'appelle l'association de copropriété en hébreu ? Vaad. Ça vient du mot Moed. Lei va'ed, le verbe c'est lei va'ed, et lei va'ed, va'ad, moed, c'est une rencontre. Il y a fait, donc il y a des moadim qui sont des temps de rencontre, et il y a oel moed, le Beth Amikdash, le Mishkan, qui est la tente de la rencontre. Il y a une rencontre dans l'espace et une rencontre dans le temps, avec la personne avec qui tu veux rencontrer. Donc on a besoin de ces trois dimensions. Lorsque Yaakov part en exil, eh bien va disparaître l'espace. Dieu ne sera plus que le Dieu de l'abstrait, du temps, de mes mitzvot, mais plus de l'endroit particulier. Et donc pour pallier à cela, va yifga b'makom. Il se remplit de makomiyut. Ok ? Il se remplit d'endroit. Se remplit de la terre d'Israël. Il a mis dans ses poches un petit peu de la terre d'Israël. Et là, maintenant, il peut partir. Et pour répondre à Abraham et Michel, eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il fait le rêve de De l'échelle. Et oui, pour répondre à Avraham Echel, il fallait le rêve de l'échelle. Quoi ? Arrête, il était franc, il est bien. Dis que c'est pas un bon jeu de mots. Dis que c'est pas un bon. Franchement. C'est juste que t'es jalouse que tu l'as pas fait de toi. L'échelle de Yaakov face à Avraham Echel.
Et quand on met, il atteignit l'endroit.
Ouais. C'est quoi l'endroit ?
C'est le Mont
Moriah.
L'endroit, c'est
le
oui.
Haran
déjà.
Non, c'est en Israël.
Il a
dit. Non, il n'y a pas. Il est parti à Haran.
Il
mais.
A en route.
C'est en route.
Entrée.
Entrée.
C'est pas ouvert.
Shalom.
Oui, c'est normal. Oui, c'est normal.
Shalom.
Oui, Cécile, merci.
Avec plaisir. Cécile.
Ça marche aussi.
Les Juifs, pendant ce siècle, quand ils partaient en exil de l'endroit où ils étaient, Espagne, ils prenaient aussi quelque chose de l'endroit
oui,
où ils ont habité.
Oui, parce que c'était toujours le quelque chose qui me rattache le plus à Jérusalem. Ouais. Alors après, bah, je suis parti de là à là, et de là à là. Regarde, on retrouve ça aussi dans les noms des yeshivot. Et oui, par exemple, prends la yeshiva de Hebron. Où elle est la yeshiva de Hebron ?
Ah,
elle n'est plus à Hebron aujourd'hui, elle est à Jérusalem. Mais son dernier Gilgul, c'était à Hebron. Seulement, quand elle était à Hebron, elle ne s'appelait pas Yeshiva de Hebron. Elle s'appelait Sobotka. Et ils étaient à Hebron, après ils ont dû partir de Hebron, le pogrom de Hebron. Ils sont arrivés à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a eu des stations en chemin. D'accord ? Pareil, quand la Yeshiva de Mir, quand elle était à Mir, elle ne s'appelait pas Yeshiva de Mir. C'est-à-dire, elle est arrivée à Jérusalem, Yeshiva de Mir. D'accord ? Bekitsour. Donc on s'attache à l'endroit. Et donc Yaakov va s'attacher à cet endroit-là qui est effectivement Har Moriah. Alors en vrai, dans le texte, on va nous dire qu'il est à Bethel.
Oui.
Nachon. Mais le Midrash va nous dire que Har Moriah s'est décroché de là où il était pour venir se mettre là où Yaakov était.
Alors
c'est normal, c'est un Midrash. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a eu une montagne qui s'est décrochée. Mais ça veut dire que c'est quoi l'endroit où Yaakov mérite d'être, c'est le mont Moriah. C'est de là qu'on parle. D'accord ? Donc, Vayivga Bamakom. Et là, Vayalen Sham qui va à Shemesh. Mais c'est qui va à Shemesh ? C'est quoi la vo, Biat à Shemesh ?
Crépuscule.
C'est le coucher du soleil. Mais c'est qui va à Shemesh ? Alors, oui, il a dû faire nuit ce jour-là. Mais on parle aussi de la nuit en tant que exil. Eh oui, qui va à Shemesh. Vaikar me avne à Makom, tu vois, il prend une pierre. Vaisem me rachotav, il la met autour de la tête. Vaishkav ba Makom, ahou. Et là commence le fameux rêve.
Pourquoi tu dis autour de la tête ?
Mirachotav. Vaisem me rachotav. Mearosh. C'est autour de la tête. Après, il y aura tout le Midrash qui va nous dire comment ça se fait qu'il a pris plein de pierres et enfin, il n'y en avait qu'une après. Alors, le Midrash, il dit que les pierres, elles se sont disputées. Elles ont dit, je veux que le tzaddik, il mette sa tête sous moi et pas sous les autres. Moi, j'ai dit pauvre tzaddik parce que mettre sa tête sur une pierre pour faire dodo,
oui,
c'est pas génial, hein. Mais bon, en tout cas, c'est là qu'arrive le rêve. Vayachalom. Vayachalom. Et il est arrivé. Veiné. Sous l'âme. Vas-y, Vehiné, sous l'âme.
C'est construit, c'est monté.
Vehiné, ça veut dire.
Voici.
Et voici,
surprise,
sous l'âme, une échelle. Pourquoi il va marquer Vaya Chalom, Vayar, sous l'âme. Ou Bechalomo, sous l'âme. Vas-y, Vaya Chalom, Vehiné, sous l'âme. Il a rêvé, et il est une échelle. Ça veut dire que qui est devenu l'échelle ? C'est Yaakov lui-même. Yaakov, c'est l'échelle. En fait, c'est quoi cette échelle ? Cette échelle, elle fait le lien entre le ciel et la terre.
Mm-hmm.
Qui doit faire le lien entre le ciel et la terre ? Yaakov. Mais donc, cette échelle, on a un problème avec cette échelle. Parce que regardez. Vayachalom veine sulam mutsav alta. Elle est positionnée vers le sol. Alta, le ta, ré à la fin, indique la direction. Donc, elle est Moutsav, elle est posée vers le sol. Donc, où est-ce qu'elle prend ses racines ?
Au sol.
Ah ben non, si elle va vers le sol. Vers le ciel, au ciel. Elle commence dans le ciel, elle descend. Le problème, c'est qu'il y a marqué après, Verosho magia hashamayma. mais la tête de l'échelle arrive vers le ciel.
Ah oui, alors
donc où elle est posée?
Elle est posée sur la terre.
Ah bah, tu m'as dit il y a deux secondes qu'elle était posée dans le ciel.
Elle est entre les deux.
Il y a fait.
Non, ça veut dire c'est un rêve.
Donc c'est une échelle.
Ça veut dire qu'elle va...
D'accord, c'est un rêve. Mais ça veut dire que c'est donc une échelle où il y a un trou au milieu.
Ah ouais, pourquoi il y a un trou?
Bah, parce que d'un côté, il y a une échelle qui est fixée dans le ciel et qui va vers le sol. D'un autre côté, il y a une échelle qui est fixée au sol qui va vers le ciel. Donc, c'est pas possible. Monter vers le ciel, les amis, ce n'est pas linéaire. Il y a un moment donné où tu dois faire le pas, où l'homme doit décider de sauter. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de suivre les indications qui sont marquées dans la Torah. Il faut également que l'homme y prenne sa responsabilité dans cette histoire-là. Et donc, Yaakov va devoir maintenant prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est tout le truc. Donc, très bien, Yaakov va vers Yisoulam, Rosho Magia Shamaima, Veine, Malaché Elohim, Olim, Veyordim, Bo. Donc, il y a des anges qui montent et qui descendent.
Normalement, ça devrait être le contraire.
Eh oui, ils devraient descendre, ils viennent du haut, les Malachim. Ils devraient descendre et monter. Bah. Alors Midrash, il dit, bah oui, parce qu'ils sont descendus. Parce que Dieu leur a dit, descendez, il y a un truc sympa en bas. Ils sont descendus, qu'est-ce qu'ils ont vu ?
Yaakov.
Qui fait quoi ?
Qui dort.
Ah, ils ont vu Yaakov, ils ont un homme qui dort. C'est rien du tout, ça. Ils sont remontés. Quand ils sont remontés, ils ont vu le Kissé à Kavod, le trône céleste. Et l'une des quatre dmouillottes qui tient le Kissé à Kavod, Yaakov Avinu. Ah
mais... Ils ont vu en bas.
Donc ils sont descendus. Ils disent, ah, en fait, c'est vraiment intéressant ce qu'il y a à voir. Donc ils sont descendus, ils sont montés, ils sont descendus. Malaché Elohim, Olim, Veyordim, Bo. Bo, Bemi. Be Yaakov. Basulam, Be Yaakov. Veine, Hashem Nitzav Alav, Vayomar. Et Dieu se révèle à Yaakov dans son rêve. Et il dit quoi ? Ani Hashem Elohe Avraham Avicha Velo Yitzhak Aaretz Asher Ata Shochev Alea Lecha Etenena Ulzaracha. Il refait donc la même promesse qu'il a faite à Avraham et à Yitzhak de lui donner la terre d'Israël. Vaya Zaracha Kafar Aaretz Ufaratzta Yama Vakedma Vetzafona Vanegba Venivrechu Becha Kol Mishperot Adama Ubezarecha. Et tu vas multiplier, tu vas aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Et tu seras béni. Venivrechu becha. Et en toi seront greffées toutes les familles de la terre. En fait, comme Abraham. Il est le successeur d'Abraham. Juste avant de partir, Yitzhak lui avait donné Birkat Abraham. C'est-à-dire ? Donc on a de nouveau une brite qui est faite entre Dieu et Yaakov, comme il avait été fait avec Dieu et Yitzhak et Dieu et Abraham, sur la terre d'Israël et la descendance. Cette fois, dans tout le livre de Bereshit, Dieu va faire des promesses aux Avot. Et à chaque fois, c'est pour leur promettre la terre d'Israël et la descendance. C'est-à-dire le peuple juif. D'accord ? Veine anochi imach ushmarticha bechol asher telech veashivoticha ala adama azot ki lo e'ezovecha ad asher imasiti et asher dibartilach. Je serai avec toi et je te protège. Je ne t'abandonnerai pas. Je te garde jusqu'à ce que tu rentres sur cette terre. Et je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas fait ce que j'ai dit. Et juste un truc que je vous projette dans l'avenir, on ne verra pas ça aujourd'hui, mais alors comment ça se fait que Yaakov, quand il revient finalement après tant d'années, et que Esav arrive pour le tuer, il a peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Dieu lui a dit « Je te protège ». Jusqu'à ce que tu rentres pas à la maison, t'as rien à craindre. Mais, alors ça, on y répondra quand on y arrive, mais ça veut dire aussi une chose. C'est-à-dire que Dieu nous promet de nous protéger Bagalout. De nous protéger Bagalout en exil. Parce que, faut bien comprendre une chose. Nous, on est traumatisés, et à juste titre, par la Shoah. Mais, deux secondes, sortons de la Shoah. La vraie question, c'est comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu de Shoah avant ? Non, non, à aucun moment il y a eu la Shoah. Il y a eu des pogroms, il y a eu des destructions, il y a eu des massacres. Non, mais attendez, il y a une différence. Je pense que j'ai pas besoin de vous. Non, attendez, t'es mort. Il y a eu d'autres méchants. On n'a pas attendu Hitler pour avoir un méchant. Je dis simplement que, évidemment, que le peuple juif il a souffert énormément, c'est pas la question. Je pense qu'on est tous d'accord de dire qu'il y a une différence entre des attaques, même répétées, et la Shoah. C'est deux choses qui n'ont pas comme une mesure. La volonté d'aller massacrer tout le peuple juif, il n'y a jamais eu ça. Même en Ukraine, en Pologne ou en Afrique du Nord, les pogroms qui étaient terribles, en Espagne aussi. En Espagne, il y avait la conversion. Ça a l'air. Donc la volonté de détruire le peuple juif, quoi qu'il arrive, c'est pas la même chose que tout ce qu'on a pu voir. Alors, il y a eu Pourim, non, tu as raison. Pourim, c'est ça, exactement. On va voir que dans la Torah, il y a eu Amalek aussi qui a voulu faire la même chose. Ce que je veux dire, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est franchement, l'antisémitisme, il n'est pas né avec Hitler. Quand tu lis les pères de l'Église, tu te dis, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait ça avant ? Eh bien, ici, nous dit Akadosh Baruch Hu, Bagalout, je te protège. On aurait dû disparaître, les amis. Aucun autre peuple n'a survécu à 2000 ans d'exil. Ils sont tous assimilés ou ils ont disparu. Donc comment c'est possible qu'on soit encore là ? Iné, Kadosh Baruch Hu dit, quand tu seras bagalout, ani lo azofra. Ok ? Et c'est quelque chose qui évidemment m'a assez à votre siman d'abani. C'est pour nous également. Vayikatz Yaakov mishennato vayomer achen. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit alors il y a très longtemps, qu'il y a deux dimensions du dévoilement divin. Il y en a une Baolam Hazé, et il y en a une dans les mondes supérieurs. Baolam Hazé, Dieu, il s'appelle Zé, et dans les mondes supérieurs, il s'appelle Anochi. Après, c'était toute la dualité qu'on avait fait entre Zé et Anochi, quand Rivka, elle était enceinte, et qu'elle ne savait pas, Vaitro Tetsuo, Abanim Bekirba, tout ça. Donc ici, Yaakov, il vient d'avoir une révélation de Dieu qu'il va être autant son patron, Baolam Hazé, que Baruch Haniyut. Donc nous dit Vaikat Hashem, Vaikat Yaakov Mishenato Vayomer Achen Yesh Hashem Bamakom Aze Ve'Anochi Bamakom Aze Ve'Anochi Lo Yadati que l'on peut avoir Gam Ze Ve Gam Anochi.
Ah oui, il y a les deux.
Nahon, on a les deux.
Vous le rattachez à avant.
Non, bien sûr que dans le verset, quand on lit le pshat, on dit Achen Yesh Hashem Bamakom Aze virgule Ve'Anochi Lo Yadati. Ça, c'est évident. Mais après, à la lumière de tout ce que nous, on a étudié sur Zev et Anochi, alors oui, bien sûr, Anochi lo yadati. Non, les Tarimim, ça fait une virgule après Azé. Donc évidemment, au niveau du Pshat, c'est Achen et Shachem comme Azé, virgule, Anochi lo yadati. Mais nous, on a étudié que Zev et Anochi, c'était deux dimensions du divin. Et donc, ça rentre en plus du Pshat en disant, mais qu'est-ce qui vient de se révéler ici à Yaakov ? Quand il va être Bagalout, Akadosh Baruch Hu, lo yé Elohe Olam Hazé. Parce que Olam Hazé Bagalout, tu ne trouves pas Dieu dedans. Alors tu te réfugies dans les synagogues, dans le Beth Amidrash, dans le Shabbat. Mais Olam Hazé, il appartient à qui ? Il appartient au Goyim. Donc tu as du mal à dévoiler Dieu là-bas. La kippa, quand tu sors de la synagogue, elle va dans la poche. Et pas que pour des raisons d'antisémitisme. C'est l'eau à Olam chez la Kadosh Baruch Hu Bachout. Vaïra, vaïomar. Manora amakom aze. En ze ki imbet Elohim veze shar shamayim. Voilà l'endroit qui fait le lien entre Beit Elohim ve shamayim. Ok ? Et là, Yaakov vient compléter la troisième dimension qui avait été commencée par son grand-père et son père. Cet endroit qu'on a dit, le Midrash nous dit que c'est Har Moria. Abraham, comment est-ce qu'il a appelé cet endroit-là ? Il l'a appelé Har. Har Moria. Behar Hashem Yirae. Har. Yitzhak, lui, il l'a appelé Sadeh. Le champ. Kerach Sadeh Asher Berecho Hashem. Et Yaakov, ici, l'appelle Bait. Quelle est la différence ? Eh bien, Har, qui habite dans la montagne ? Bah, personne. Il n'habite pas. Il se balade. Personne n'habite dans la montagne. Donc, Bahar, Atapogesh, Atakadosh Borou, Zeben Adam, Lamakom. Dans le champ, c'est là où tu rencontres bah, les gens. Le champ, c'est le business de l'époque. C'est Ben Adam, le Chavero. Vers Bait, c'est là où tu te retrouves. C'est Ben Adam, le Hatzmo. Donc on a ces trois dimensions qui sont portées par nos trois patriarches. D'accord ? Ok. וישכם יעקב בבוקר. הנה, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה. C'est quoi ce concept? Il va mettre la pierre et il va en faire un espèce d'autel et il va mettre de l'huile dessus. On voit ça très souvent ça dans la Tanakh où les gens ils mettent de l'huile sur quelque chose. Quand on veut les Kadesh, quelque chose, on met de l'huile dessus. Le roi, on va le oindre. Le Kohen Gadol, on va le oindre. On va lui mettre de l'huile dessus. Voilà. La pierre, il a mis de l'huile dessus.
Il
l'a oint. Le blama. C'est quoi le rationnel derrière tout ça? Oui, mais en quoi le fait de mettre de l'huile dessus quoi, il était tunisien? Peut-être qu'il était tunisien, on ne sait pas. Et la main? L'huile, hein, ça protège? En quoi ça protège?
L'huile ne permet pas à tout de pénétrer.
Ah, tu dis ça va lui faire une zone, mais l'huile, à un moment donné, elle ne va pas...
Bah, la pierre, elle est dure quand même.
La pierre, elle est dure. Non, disons que l'huile, elle va faire en sorte que je montre la différence. Ce n'est pas qu'elle ne va pas permettre aux choses de pénétrer. Elle ne se mélange pas avec les autres choses. Et donc, on montre, en mettant de l'huile, la spécificité d'une chose par rapport à une autre. D'où le minag de mettre de l'eau dans l'huile des nérotes de Shabbat. Il y a un minag comme ça, tout le monde ne le fait pas, mais de mettre de l'eau dans l'huile. Ce n'est pas juste pour économiser l'huile, c'est pour montrer qu'il y a une différence. C'est-à-dire... ok. Ben, c'est-à-dire...
Okay. Il faut avoir de l'huile sur soi.
Voilà. Alors, Yaakov était très certainement tunisien, c'est ce qu'on a dit. Vaikra Shem Amakom Ahu Bethel Veulam Luz Shem Ahir Larishona. Donc il l'a appelé comment? Bethel. Ça veut dire la maison de Dieu. C'est pas juste. Vaidar Yaakov Neder. Yaakov fait un Neder. Les morts.
J'ai une question. Oui. Pourquoi on nous dit que ça s'appelait Luz?
Alors, Luz, c'est...
Il est dans un endroit, ok, il l'appelle Bethel. Voilà.
Oui, mais cet endroit avait un nom.
Oui, mais pourquoi on nous le dit?
Alors, c'est une bonne question.
Limite, on n'a pas besoin.
Exactement. Si c'est juste un repère géographique, on a moyennement besoin.
Alors...
Et là, Luz, ça veut dire origine.
Origine.
C'est comme l'os s'appelle Etzemalouz. Okay, qu'on va dire dans le Midrash, dans le Kabbalah, qu'on a ici et que c'est celui qui va rester. Ça n'a rien à voir avec un truc physique, hein, évidemment. C'est, on parle de l'essence de la chose. Oulam Shem Luz Shem Ha'ir La Rishona. Pourquoi c'est devenu Bethel? Parce que c'était Luz. D'accord? Vaïda Yaakov Neder Lemor Im Ye Elohim Imadi Ushmarani Baderech Aze Asher Anochi Olech Venatan Yilechem Lechol Ubeged Lilbosh ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. וכס כדי יעקב, ידי אוקיי, תחי בין רפרן דיל. סי, תומרמן שמוע, כמו תומדי, וכי פנדן תות מפרגרינסיון, תומדן דופן ואין ויתמן, נוק לבאז דל אקזיסטנס דל הום, אלור, תוסרה פור מוע דיו. והיה השם לי לאלוהים. Non, c'est absolument pas qu'il a besoin de preuves. C'est que tu ne seras pas Hachem, Lil et Elohim, Bagalout. Parce qu'on a dit, Bagalout, Zemach Wacher. Donc tu veux que je puisse, il faut me ramener. Et tu ne pourrais être, je ne pourrais t'appeler Hachem, Lil et Elohim que lorsque je serai rentré.
Lorsque tu auras tenu ta promesse.
Donc en gros, lorsque toi, ce que tu m'as dit, tu vas le faire, bah ok. Et donc ça veut dire que Bagalout, Zelo Bidiouk, Nachon. Et le Talmud nous dira que Bagalout, Amisraël, il ressemble un peu à des idolâtres. À la sorte. Et dans le traité d'Avodah Zara, page 8, Israël, Shebechut Salaharetz, Ovde Avodah Zara, Betahara, M. Nous sommes des idolâtres purs. Nous dit le Talmud dans le Sefer Ketubot, à la page 110, que tout celui qui habite en. Il réside de manière permanente en Chutz Laharetz ressemble à un idolâtre. Dur, hein? Quoi? Non, mais t'as fait comme ça. Ben oui, c'est dur, évidemment que c'est dur. Je vais te dire mieux que ça. La phrase d'avant le Talmud, c'est de dire tout celui qui habite en Chutz La'aretz ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Et tout celui qui habite en Israël ressemble à celui qui a un Dieu. Rabbi Avraham Azoulay, Baal HaChesed l'Avraham, élève du Harizal, enterré à Hebron, il dit. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire le Talmud ? Tout celui qui habite en Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un dieu, virgule, dit Chesed l'Abraham, même s'il n'a pas l'air d'en avoir un. Et tout celui qui habite en Chutz La'aretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de dieu, virgule, même s'il a l'air d'en avoir un. Dur, hein ? C'est ça ? Mais Yaakov, il a bien compris l'histoire. Et donc maintenant, Zéou. « Ve'aeven azot asher samti matseva ye bet Elohim » וכל אשר תיתנו לי אסר אסרנו לך. Tout ce que tu m'as donné, 10% je te donne. De là, l'origine, c'est le mitzvah, ta main aser.
Je l'avais jamais vu, c'est quand même pas la première
fois. T'as vu ? C'est vrai ? Alors j'étais avec un groupe et on est passé par Bethel et je leur ai dit, les amis, regardez bien dans le bus parce qu'on a retrouvé les vestiges de l'échelle de Yaakov. Et ils étaient comme ça. Ben, je leur ai dit que c'était un rêve.
Ben, c'est un rêve.
Mais après qu'ils soient tous collés vers la fenêtre. Et je leur ai dit, mais tu nous fais marcher. Ils disent, ouais, je vous fais marcher, évidemment, c'était un rêve. Vous vous rappelez pas ? Ah, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a retrouvé les ossements des 7 vaches grasses du rêve de Pharaon. Et ils ont bugué un instant avant de dire non, mais c'était un rêve aussi. Comme quoi ?
Non, mais non, hein, c'était un rêve, mais.
Avec un peu de persuasion. C'est quoi ? 7 vaches grasses qui ont mangé, ah, les 7 vaches mecs qui ont mangé les 7 vaches grasses ? Non, c'était un rêve.
Bah, je sais pas si elles les ont mangées, mais ça peut exister, les 7 vaches grasses.
Non, des vaches grasses, ça existe. Des vaches maigres, ça existe. Des vaches maigres qui mangent des vaches grasses, ça n'existe pas. Et dans tous les cas, que la vache soit grasse ou maigre, le squelette, c'est le même. Enfin bon. Vaïssa Yaakov raglav vayelech altsa benekedem. Zéou, Yaakov s'en va.
Mais il se bat
pas
avec l'ange de
Isaac. Ah, ça c'est quand il revient. Mais il n'est pas encore parti, tu veux qu'il soit déjà revenu ? C'est dans 20 ans.
C'était sur l'échelle.
Non, la pétone. Pas du tout.
C'est
quand il revient en Israël. Ah bah je t'en prie. Non, c'est pas moi qui ai écrit le texte, hein. C'est pas de ma faute. Donc il est parti. Vayar veine. Alors ça y est, il arrive à Chav. Donc voilà, on va nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand le peuple juif arrive en exil. Iné. Vayar veine be'er basade. Et là, venez, on va prendre un peu de hauteur. On va pas se contenter du texte. Il voit un puits dans le champ. Mazé le champ. C'est l'endroit où l'homme agit. Mazé un puits.
Là où il puise l'eau, c'est l'eau.
Donc, c'est-à-dire l'origine de la vie. Donc, il a vu la source de vie. Oh, là-bas, Bagalout. Top. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Vayar Beine Ber Basade, Veine Sham Shlosha Edretson Rovtsim Alea. Et il y a trois troupeaux qui sont là-bas. Trois troupeaux ? Oui. Il y a trois identités humaines qui sont autour de la source de vie. C'est qui ces trois identités ? Babylone, la Perse et la Grèce. Les trois grandes civilisations qui vont créer l'humanité. Vous allez me dire, et Rome dans tout ça ? Rome, ils n'ont rien créé. Ils ont repris de la Perse, ils ont repris de la Grèce, ils ont repris de Babylone, ils l'ont fait en plus grand. Ils n'ont rien créé. Ce sont les trois grandes civilisations qui ont modelé le monde moderne. La Babylone, la Perse et la Grèce. Donc on a trois identités humaines, Yaakov le voit bien. Kimina Berai, Yashkoa Darim. Tout le monde, toutes ces identités humaines savent qu'il faut puiser de la source de vie. Vaeven Gedola, Alpiaber. Mais il y a quelque chose qui bloque l'accès à la source de vie. Comment faire pour enlever ce blocage ? Venezfu Shamma Kola Darim. וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצון, וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. Ils ont compris que le seul moyen d'arriver à la source de vie, c'est quoi ? C'est de s'unir. De s'unir. Sinon, ils n'y arriveront pas. Ils s'unissent, ils savent que ce n'est qu'en s'unissant qu'ils vont y arriver. Ils vont s'unir, et en s'unissant, ils enlèvent la pierre. Et ils peuvent donner à boire à tous leurs troupeaux. Mais attention, après, ils remettent la pierre.
Dans l'histoire, ils ne sont pas unis, ils sont venus l'un après l'autre.
Ah ben non, là on te dit qu'ils sont unis là, les trois.
Là oui, mais disons si c'est un...
Ah évidemment, évidemment qu'ils sont venus l'un après l'autre, mais Le fait qu'ils viennent l'un après l'autre. Mais à chaque fois, ils prennent de ce qui a déjà été. C'est-à-dire qu'on construit par rapport à ce qu'il y a déjà eu. On ajoute une pièce au puzzle. Et tu as raison que quand ils ont voulu être tout seuls, alors ils n'ont pas réussi à arriver à la source de vie. Mais Kitsour, pourquoi est-ce qu'ils remettent la pierre? Parce que oui, on a compris qu'il fallait être unis. Mais pour l'instant, on est unis pour nos intérêts. Ce n'est pas qu'on a compris l'importance de l'unité en tant que telle. C'est que si on ne peut pas être unis, si tu n'es pas avec moi, moi, je n'arriverai pas à boire. C'est pas j'ai compris que si on n'est pas unis, toi, tu n'arriveras pas à boire. Et donc, ils remettent la pierre. Tov, Vayomer lahem Yaakov. Achai, me'ain atem. C'est-à-dire quoi? Mes frères, d'où venez-vous? Dis-moi, tu trouves ça normal que quelqu'un qui est un étranger, qui arrive chez l'habitant, il demande à l'habitant, d'où viens-tu? Ben évidemment que c'est l'inverse. Donc non, c'est pas possible que ce soit. Il leur dit, c'est pas une question, c'est une affirmation. Il leur dit, Achai, mes frères. Mais Aïn Atem. Vous savez pourquoi on est frères? Parce qu'on vient tous, Yesh Me Aïn. On a tous la même origine. Même si on est différents. Ah ouais, mais attends, oh là, tu vas trop loin, mon ami. Vayomer, Vayomro, c'est ça. Mecharan Anachnu. On vient de Charon Apo Shel Olam. Nous, on n'est pas du tout dans tes idéaux très, très, très élevés. On n'est pas à ce niveau-là. Charon. Charan. Le Charon Af, c'est la colère. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'est pas du tout là. Vayomer Lahem. Bon, j'ai compris. Aïda Atem et Lavan Ben Nahor. Lavan, il n'est pas le fils de Nahor. Lavan, il est le fils de Betuel. Alors pourquoi Lavan Ben Nahor? Le grand-père. C'est surtout le frère d'Abraham. Donc est-ce que vous connaissez la famille d'Abraham? Vous connaissez la Bible?
C'est ça, c'est directement.
Ah, bien sûr. Mais évidemment. Et ils disent Vayomru Yadan. Okay, on a entendu parler dans toutes les civilisations du monde, il y a la Bible. Mal lue, mais elle est là. On a entendu parler. Vayomer lahem ha-shalom lo. Vous avez compris que toute l'histoire de la famille d'Abraham, c'est de faire le shalom dans le monde. Vayomru shalom. Ok.
On n'est pas contre.
On n'est pas contre, mais bon, on n'y est pas quoi. Veine Rachel bito ba'im atzon. Rachel arrive. Elle aussi, elle est bergère. Elle aussi, elle dirige. Elle est leader d'une autre identité. ויאמר הן עוד היום גדול לא תאסף המקנה השקו הצאן הולכו ראו. Comme il voit Rachel arriver, il se dit, ils sont en train de me déranger tous ces gens-là. Allez, au boulot, c'est pas fini la journée, faites boire vos troupeaux et yalla. ויאמרו לא נוכל אשר יאסף כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישכינו הצאן. On t'a expliqué qu'il fallait qu'on soit tous ensemble. On n'est pas encore tous réunis, on n'a pas atteint notre niveau d'unité. Donc on peut pas bosser. Seulement, Yaakov, il voit Rachel arriver.
Mais ils ont déjà roulé.
Non, là, on t'a présenté l'histoire. On t'a dit qu'il y avait une grosse pierre et qu'il l'enlevait et il la remettait à chaque fois. Donc là, semble-t-il, au moment où Yaakov arrive, ils ne sont pas encore tous là pour bien enlever la pierre. Ils ne sont pas prêts à faire le boulot. Mais Yaakov, il comprend que c'est le moment où il faut agir. Donc, Odenu medaber imam, verachel baim atzon, asher lahavia kiroai. Rachel arrive. On dit le Zohar qu'à ce moment-là, Yaakov comprend que c'est avec elle qu'il va créer le peuple juif. Veika asher ra Yaakov et Rachel bat Lavan achi imo vetzon Lavan achi imo veigash Yaakov veyagel et haeven me'al pi haber veyeshk et hatzon Lavan achi imo. Yaakov il comprend que c'est le moment d'agir. Il dit bon, j'ai pas le temps que le monde entier se réunisse. Moi, Am Israël, je vais prendre sur moi de faire le tikkun haolam. Et il va tout seul et il enlève Yapir tout seul. Ça crée quelle réaction chez les goyim quand le juif il vient et il fait tout le boulot? Tu comprends? Toute ressemblance avec un cas actuel évidemment serait plus fortuite et involontaire. Et à ce moment-là, Vaishak Yaakov le Rachel, Vaisa et Kolo Vaev.
Il l'embrasse.
Il l'embrasse, direct. Et il pleure.
Pourquoi il
a dit l'amour? Vaisa et Kolo Vaev. Il a pleuré. Alors pourquoi il a pleuré? Le coup de fou, mais il pleure. Pourquoi il pleure? Alors le Midrash il dit parce qu'il a vu qu'il ne serait pas enterré avec elle. Ou alors parce qu'il a vu les bergers se moquer de lui. Il dit quoi, un mec, un étranger, il vient d'arriver, la première fille qu'il voit, il l'embrasse. Et il se moque de lui. Alors que pourquoi il embrasse Rachel? Parce que c'est avec elle qu'il va se marier. Parce qu'il est là pour construire le Ham Israël qui va amener la paix dans le monde, qui va corriger le monde entier. Et que le moment de la rencontre entre ces deux Nefashot, c'est le moment de l'union dans les cieux. Et de Malasot ! Mais le monde n'est pas prêt. Toute ressemblance avec un cas actuel où Ham Israël, il prend sur lui de faire des choses et le monde entier nous crie dessus, alors que c'est pour eux qu'on fait ça. Il faut bien comprendre que ce qu'on fait avec nos amis palestiniens, qu'on les remet à leur place, pas assez. C'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est pour le monde entier. Et pour l'instant, le monde entier, il se moque de nous. Il se moque de nous. Il nous crie dessus. Est-ce que ça va nous empêcher de continuer à bosser? Non. On continuera à faire le Tikkun Olam de Malchut Shaddai jusqu'au moment où le monde entier, il comprendra. Et donc ça, c'est le boulot du peuple juif en exil, d'arriver à ouvrir la source de vie à l'humanité tout entière. C'est tout un programme. Et on verra comment on fait la semaine prochaine.
Il y a du boulot.
Effectivement.